Les livres, sélection de Radio Silence. Ce mercredi 22 octobre de l'an de grâce 2014, ici Périnée. À tous, présents et à venir, qui voulez bien nous écouter, salut.
Faute de pouvoir rétablir la prospérité de la France, ces princes qui présentement nous gouvernent accélèrent la mise en œuvre des mesures intrinsèquement létales de leur programme politique et social, et ce, de façon, espère-t-il, irréversible. Après la loi sur le prétendu mariage pour tous, c'est maintenant la délirante théorie du genre, SIC, dont, à titre de rééducation, on impose l'enseignement aux enfants dès l'âge de 3 ans. 3 ans. Une véritable profanation, un sacrilège. Pour le petit reste, qui échappe encore à l'état de sidération générale, la question lancinante se pose. Comment peut-on en être arrivé à cette pointe extrême du nihilisme, à ce stade à tout le moins pré-apocalyptique? L'on en arrive à se demander si, à une question aussi difficile, aussi fondamentale, peut exister une réponse valable. Mais cette réponse existe bel et bien. C'est le livre tout récent du professeur Pichot Bravard, éminent spécialiste d'histoire du droit et des idées politiques. La Révolution française. Villarmana, éditeur, ouvrage préfacé par Philippe de Villiers. Ce n'est pas un nouveau manuel d'histoire, mais bien la plus intelligente recherche de la signifiance des faits et événements survenus en France entre 1780 et 1799, année du coup d'État de Brumaire. Citation. Première citation. La terreur dont les républicains purs ne proclament le règne qu'en 1793 date, pour tout homme impartial, du 14 juillet 1789. Et je serai personnellement en droit de la faire remonter plus haut. Maloué, député important à l'Assemblée constituante. Deuxième citation. La révolution est un bloc. Cette admirable révolution, par qui nous sommes, n'est pas finie. Elle dure encore. Il faut donc que la lutte contre les ennemis de la révolution, dure jusqu'à ce que la victoire soit définitive. Clémenceau, à la tribune de la Chambre, en 1891. Ces deux excellentes citations peuvent servir de frontispice au livre. Elles condensent exactement ce qu'a été réellement la Révolution. Comme l'établit le professeur Pichot-Bravard, elle est bien un tout, marqué dès le début par le recours à la terreur, à l'horreur de massacres atroces, et un tout appelé à se perpétuer jusqu'à la fin des temps. Comme il se doit, l'auteur traite en premier de ce que peuvent être les causes d'un cataclysme aussi profond, aussi ravageur. Question difficile et controversée. La plus connue, la plus invoquée de ces causes, c'est le déficit chronique du trésor royal. Certes, et malgré les heureuses réformes de Colbert, ce n'est pas d'hier que les finances royales doivent recourir aux mauvais expédients devenus habituels, des ventes d'office ennoblissants, voire de titres de noblesse, et surtout aux emprunts auprès des financiers. Comparé à l'anglais, le système fiscal français est archaïque. Malgré les efforts, les tentatives de réformes intelligentes, de remarquables contrôleurs généraux tout au long du XVIIIe siècle, tels Machaut d'Arnouville, jamais n'a pu être établie l'égalité devant l'impôt. À tout le moins, un minimum de justice fiscale. Les classes supérieures continuent à échapper en grande partie à l'impôt. Le paradoxe est ainsi que dans une France qui ne cesse de s'enrichir, elle est en train de dépasser l'Angleterre comme première puissance économique du monde. L'État reste besogneux, toujours à la recherche d'expédients. En ces dernières années du siècle, la situation s'est aggravée en raison du coût élevé de la guerre des Amériques. Les victoires éclatantes de Suffren le plus génial marin de tous les temps, à la bataille de la Praia et ensuite, ont nécessité des dépenses élevées. C'est faute d'avoir pu obtenir des financiers, les prêts permettant d'éviter la banqueroute, que Louis XVI se résigne, en 1788, à convoquer les États généraux. Ceci, après avoir réuni deux assemblées de notables, clergé et noblesse confondus, sous successivement les ministères de Calonne, dernier grand ministre de la monarchie, et Loménie de Brienne, pour en obtenir un soutien financier, sans succès, en raison de l'égoïsme foncier de ces nantis. Ajoutant une calamité à une autre, le roi appelle à la direction des finances publiques le banquier genevois Necker, le père de la militante féministe Germaine de Staël, aussi surfait que son action se révélera néfaste. Cette réunion des États généraux va donner le coup d'envoi au processus révolutionnaire, alors que dans une France qui, comme on l'a dit, s'enrichissait, la crise financière pouvait parfaitement être réglée. Mais plus grave que l'impécuniosité et le malaise social, il résulte du blocage à l'entrée massive et significative de la bourgeoisie, la haute bourgeoisie, dans la classe supérieure de la noblesse. Or, cette couche supérieure du tiers-État, cette grande bourgeoisie, qui détient la puissance économique, a un niveau de vie au moins égal à celui de l'aristocratie. Les deux classes, d'ailleurs, se compénètrent. L'on voit des filles de ducs épouser des financiers. Dans ces conditions, le maintien de privilèges, mais au sens courant du terme, apparaît hors de propos, vexatoire et humiliant pour la bourgeoisie. Ceci d'autant plus qu'à contre-courant de l'évolution normale, se produit, à partir des années 1780, une réaction nobiliaire de défense de son statut, le statut de la noblesse. Il en est ainsi notamment dans l'armée qui devrait prôner l'égalité, la seule égalité des talents, la seule supériorité du courage, notamment dans l'armée où une réforme de Ségur, secrétaire d'État à la guerre, édicte que l'avancement soit réservé aux seuls officiers de noble origine, de noble extrace. Carnot, le génial organisateur de la victoire, est ainsi bloqué au niveau de capitaine du génie. Pour conforter une petite noblesse fragilisée, lui garder ses privilèges, le roi se prive ainsi de la fidélité d'une bourgeoisie pourtant appelée par définition à soutenir l'ordre et la monarchie traditionnelle. Plus grave encore cependant reste l'insuffisance, l'incapacité de Louis XVI, Télémaque XVI, le roi bon, son incapacité à faire face à la situation, au moins pour la dominer et la canaliser. Il se révèle hors d'état de faire le roi, comme l'invitait à faire sa sœur Élisabeth au soir du 6 octobre 1789. Il est allergique à la fermeté qui pourtant, comme le dit Richelieu, l'emporte en toute chose. Plein d'illusions, rempli de bons sentiments, acquis au moins partiellement aux idées nouvelles, il commence son règne par la faute capitale, c'est la juste expression, du rappel des parlements, ces frondeurs impénitents, si heureusement mis au pas par la réforme du grand ministre Maupoux. Enfin, à très juste titre, Pichot-Bravat relève que ce sont des influences intellectuelles qui sont avant tout à l'origine de la révolution dite française. Les racines des thèses des hommes des Lumières sont en effet anciennes. Disciples de Gassendi et de Descartes, première moitié du XVIIe siècle, Diderot, d'Holbach, Condillac, Helvétius, Voltaire et autres ont une philosophie matérialiste ou tout au moins matérialisante. L'homme est une mécanique réagissant à ses sensations dans le sens de son intérêt sans aucune place pour la liberté humaine. En matière d'organisation politique et sociale, ce sont les Anglais Hobbes, auteur du Léviathan, et Locke, tous deux du XVIIe siècle également, qui influencent les Lumières. Eux-mêmes s'enracinent, eux-mêmes Locke et Hobbes, surtout Hobbes, eux-mêmes s'enracinent dans la tradition nominaliste, cette philosophie de Guillaume d'Ockham, un franciscain de la fin du XIIIe siècle, enseigne que l'homme, par ses sens, ne peut connaître la réalité du monde extérieur. Il doit se contenter de donner un nom, d'où l'appellation de nominalisme, aux différents êtres et objets extérieurs, en arrivant ainsi à nier jusqu'aux essences mêmes des êtres leur caractère universel, d'où le vocable de querelle des universaux. Est ainsi ouverte la porte à un relativisme généralisé, ce relativisme si bien dénoncé par le Saint-Père Benoît XVI par la suite, et au dépérissement de toute transcendance. Locke, et plus encore Hobbes, hostile par principe au corps et état traditionnel, qui était la trame de la société d'Ancien Régime, de la société traditionnelle, diffuse une conception individualiste et surtout contractualiste, le pacte social donnant ainsi naissance à une société proprement artificielle. Le droit, les institutions, l'autorité, les hiérarchies ne reposent que sur des conventions humaines remodelables à loisir et non sur des réalités ou des principes fondateurs. Toutes ces idées vont être notamment diffusées dans les salons qui, sous l'autorité des autorités féminines, fleurissent un peu partout en France. Et on peut parler dans ces salons, se monter la tête, prôner une idéologie sans le risque de démenti par les faits, aussi irréaliste soit-elle. Salons qui sont accusés, à juste titre d'ailleurs, par Rousseau d'abord, mais aussi de nos jours, par Anne Bernay, de déviriliser les hommes. Ce qui expliquerait vraisemblablement que ces futures victimes de la terreur se soient si peu défendues. Mais où sont passés les hommes? Enfin, outre l'influence des sociétés de pensée, il faut tenir compte dans la crise sociale du basculement religieux du milieu du XVIIIe siècle à Paris, avec la néfaste dissolution de la Compagnie de Jésus, cette véritable colonne vertébrale de l'Église, selon la juste et belle expression de Madeleine Foisil. Le siècle des Lumières entend, en application de toutes ces idées, refonder les institutions politiques, l'organisation sociale et l'homme lui-même, en passant par l'enfant et en s'en appropriant le système éducatif, selon les préceptes de la seule raison, en se passant de toute transcendance. Et cela en vue d'assurer à l'humanité, citation, l'accès au bonheur pour tous, cette idée neuve en Europe. Bonheur d'ailleurs essentiellement matériel, mais dont la jeune Manon Philippon, la future Madame Roland, pourra dire « Ma grande affaire, c'est mon bonheur ». Pour ce faire, l'État devra être pourvu de pouvoir absolu, c'est le despotisme absolu, afin, s'il le faut, de forcer les gens à être heureux, de les forcer à être libres. Tel est le fond doctrinal qui inspire l'action des différents acteurs de la Révolution. En une remarquable synthèse, l'auteur décrit les luttes entre les différents courants, clans et factions de cette période. Ceci avec la montée irrépressible de la terreur qui, coessentielle à la Révolution, commence donc dès le 14 juillet 1789 pour, après la grande terreur de 1793-94, cesser de façon presque accidentelle avec la chute de l'incorruptible 1794, étant rappelé que Maximilien a été chassé, a été perdu par des plus terroristes que lui. C'est tout à fait exact. S'ensuit la réaction thermidorienne, extravagante période, festive et luxueuse tout à la fois, avec ses incroyables, sa jeunesse dorée, ses ventres pourris, ses merveilleuses et autres sans chemise, remplaçant avantageusement les sans culottes. C'est finalement le général Bonaparte qui ramène l'ordre dans la rue, mais cristallise aussi les acquis de la Révolution. Avec le transfert immense de propriété, la primauté absolue de l'État, la loi devenue l'expression de la volonté générale, en fait des groupes de pression successifs. Étant rappelé qu'une des toutes premières mesures de l'Assemblée constituante de 1789 a été l'interdiction absolue et perpétuelle de la formule du mandat impératif, c'est-à-dire des ordres donnés par les électeurs à leurs députés de voter dans tel sens, pour faire passer ainsi la perpétuation de la Révolution dans les esprits est ainsi assurée. Avec une rigueur quasi scientifique et un incomparable brio, le professeur Pichot-Bravard établit que la Révolution continue présentement, avec la répudiation de toute transcendance authentique, la volonté de faire une complète table rase du passé d'avant 1789, l'appropriation de l'enfance en vue de l'appropriation des intériorités, tout cela pour parvenir à des institutions, un monde et un homme nouveau, le parfait citoyen républicain. Sans se priver à cet effet d'avoir recours à une vraie terreur, celle de la pensée unique, de l'idéologie dominante, promesse de salut et doctrine de combat. À preuve, si besoin était, la citation tirée du livre de M. Peillon, La Révolution française n'est pas terminée, sur laquelle se clôt l'étude du professeur Pichot-Bravard et la mise en œuvre fanatique de la rééducation sikh des enfants par l'immonde théorie du genre. Dans ce combat, qui est notre combat, qui, comme la Révolution, continue, il faut remercier chaleureusement ce magnifique historien pour ce chef-d'œuvre d'érudition à la lucidité incandescente athénienne. Ce n'est que d'élémentaire justice de le saluer de l'épée en diffusant au maximum son ouvrage. Merci de nous avoir écoutés. À une autre fois. Dans ce mois des vendanges, qui est un deuxième mois marial, celui de son très saint rosaire, et alors que décidément la nuit s'épaissit autour de nous, que la très sainte Vierge, qui est notre reine, nous garde et protège contre les périls terrifiants qui s'annoncent, sans oublier cette église de son divin Fils, cette barque de pierre dans la tempête, dont elle est également la reine. Ô les cœurs, et hec ad majorem Dei gloriam.